Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de nous plonger dans un récit de l'Ancien Testament, sans téléphone. Le récit d'un de ces héros de la conquête du pays de Canaan, après que le peuple d'Israël, libéré de l'esclavage en Égypte, était sorti du désert pour conquérir et habiter la terre promise. Nous sommes environ entre 1400 et 1000 avant la naissance de Jésus. Lisons dans Juges 2, les versets 11 à 23. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et Astarté. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne hâta point de les chasser. » Dieu a créé les hommes et les femmes à son image. Ils sont libres de faire le bien ou le mal pour eux-mêmes et pour leur entourage. Dieu donne clairement à Moïse les 10 commandements que le peuple d'Israël devrait s'approprier pour vivre en paix génération après génération. Premier commandement, un Dieu unique, pas de divinité multiple et variée. Pas d'image à adorer, pas d'idole. Pas de blasphème, le respect total de Dieu parce que Dieu est Dieu. Et le respect du 7e jour du repos, sanctifié, mis à part pour le service de Dieu. Respecte ton père et ta mère. Ne commets pas de meurtre, tu ne tueras pas. La fidélité dans le couple et pas d'adultère. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Voilà des indications claires et simples à comprendre, qu'il suffit de mettre en œuvre au quotidien pour que Dieu puisse nous offrir sa paix et ses bénédictions. Mais voilà, les enfants d'Israël s'éloignent de Dieu, les enfants d'Israël se laissent influencer par les coutumes païennes des peuples qu'ils côtoient. Ils oublient ce que Dieu a fait pour les générations qui les ont précédées. Et c'est dans ce contexte que Dieu livre les enfants d'Israël entre les mains de Midian. C'est terrible de constater que Dieu lui-même décide de laisser la voie libre à un ennemi pour faire souffrir horriblement les enfants d'Israël. À un moment donné, les hommes et les femmes perdent le contact avec Dieu, la communication verbale devient inaudible et en tout cas inopérante. Quand la souffrance devient insupportable, quelquefois, un sursaut de bon sens nous aide à prendre conscience de notre responsabilité personnelle et collective à l'origine de la détresse dans laquelle nous pouvons être. Lisons dans Juges 6, les versets 1 jusqu'à 7, verset 23. C'est une longue lecture, mais ce n'est pas cela. Je lis dans une version qui s'appelle Parole de vie, c'est un petit peu plus rythmé que dans la version suivante. Donc Juges 6, à partir du verset 1. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur, alors le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause d'eux, les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans les grottes et dans les endroits difficiles à atteindre. Chaque fois que les Israélites sèment dans leurs champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Est. Ils campent sur leurs terres et ils détruisent les produits des champs jusque près de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites, ils ne leur laissent ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivent en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne peut pas les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère, et ceux-ci crient vers le Seigneur. Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Cet homme leur dit de sa part, « Moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai libéré des Égyptiens et de tous ceux qui vous maltraitaient. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, « Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Vous qui habitez le pays des Amorites, ne servez pas leur Dieu, mais vous n'avez pas écouté. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joash du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joash, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit « Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. » Gédéon répond, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec moi, avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté leurs actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Gédéon répond, « Seigneur, pardon, est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune de ma famille. » Le Seigneur lui répond, « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Gédéon dit au Seigneur, « Si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en va pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi et je veux te l'apporter. » Le Seigneur répond, « Je vais rester jusqu'à ton retour. » Alors Gédéon va préparer un cabri, il prend 30 kilos de farine et il fait cuire des pains sans levain. Il met la viande dans un panier et le jus dans un récipient, puis il apporte tout cela sous l'arbre sacré et il le présente à l'ange de Dieu. L'ange lui dit, « Prends la viande et les pains, mets-les sur ce rocher et verse le jus dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur touche la viande et les pains avec le bâton qu'il tient à la main. Un feu sort du rocher, il brûle la viande et les pains, puis l'ange disparaît. Gédéon comprend que c'était l'ange du Seigneur et il dit, « Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit, « Que la paix soit avec toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur, il appela, « Le Seigneur donne la paix. » Cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophra, le village du clan d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. » Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le dieu Baal et tu couperas le poteau sacré planté à côté. Ensuite, en haut de la colline, construis un autel bien équipé pour le Seigneur ton Dieu, emmène le taureau et offre-le en sacrifice complet. Pour le feu, prends le poids du poteau sacré que tu couperas. Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui a commandé. Mais il a peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des habitants du village. Alors il le fait pendant la nuit. Tôt le matin, quand les gens du village se réveillent, ils voient l'autel de Baal détruit. Le poteau sacré qui était à côté de lui a été coupé. Le taureau né le deuxième a été offert en sacrifice complet sur l'autel construit pendant la nuit. Ils se demandent entre eux, qui a fait cela? Ils se renseignent, font des recherches, et ils apprennent que c'est Gédéon, fils de Joash. Les villageois disent à Joash, amène-nous ton fils, nous allons le faire mourir. En effet, il a détruit l'autel de Baal et il a coupé le poteau sacré planté à côté de lui. Joash dit à tous ceux qui étaient près de lui, « Est-ce que c'est vous qui devez défendre Baal? Est-ce que c'est vous qui devez l'aider? Celui qui prend la défense de Baal, il faut le faire mourir avant demain matin. Si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. À partir de ce jour-là, on appelle Gédéon Yerubaal, cela veut dire que Baal se défend. On l'appelle de ce nom parce que Joash a dit « Baal n'a qu'à se défendre lui-même, en effet, c'est son autel que Gédéon a détruit. » Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblent. Ils traversent le fleuve Jourdain et ils campent dans la plaine d'Israël. L'Esprit du Seigneur saisit Gédéon qui sonne de la trompette. Alors les hommes du clan d'Abiézer se mettent à le suivre. Gédéon envoie des messagers dans tout le territoire de Manassé. Les gens de cette tribu le suivent aussi. Il envoie encore des messagers dans les tribus d'Asser, de Zabulon et de Nephtali, et leurs hommes viennent avec eux. Gédéon dit à Dieu, « Tu as dit que tu voulais délivrer Israël en te servant de moi. Eh bien, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine à l'endroit où l'on bat le blé. L'eau de la pluie va se déposer sur la laine, mais si le sol tout autour reste sec, ce sera un signe que tu veux délivrer Israël en te servant de moi, comme tu l'as dit. » Ce que Gédéon a demandé arrive. Le matin suivant, Gédéon tord la peau de mouton, il fait sortir assez d'eau pour remplir un bol. Alors Gédéon dit à Dieu, « Ne te mets pas en colère contre moi, je vais te demander encore une chose. Je voudrais un autre signe. Cette fois-ci, il faut que la peau de mouton seule reste sèche et que l'eau de la nuit couvre le sol tout autour. » Cette nuit-là, Dieu réalise la demande de Gédéon. Seule la peau de mouton reste sèche et l'eau de la nuit couvre le sol tout autour. Gédéon, appelé aussi Yerubaal, se lève tôt le matin avec son armée. Ils vont installer leur camp près de la source de Harod. Le camp des Madianites se trouve plus au nord dans la plaine du côté de la colline de Morée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Tes hommes sont trop nombreux. Je ne veux pas leur livrer les Madianites. Sinon, les Israélites se vanteront en disant « C'est notre propre force qui nous a sauvés. » Tu vas donc annoncer ceci à tes hommes. Tous ceux qui tremblent de peur n'ont qu'à rentrer chez eux en passant par la montagne de Galaad. Parmi les combattants, il y a 22 000 hommes qui s'en vont. Il en reste 10 000. Le Seigneur dit à Gédéon, « Tes hommes sont encore trop nombreux, fais-les descendre au bord de l'eau. Et là, je vais choisir pour toi ceux qui iront avec toi. Quand je te dirai, cet homme ira avec toi, il ira. Quand je te dirai, cet homme n'ira pas avec toi, il n'ira pas. » Alors Gédéon fait descendre les combattants au bord de l'eau. Le Seigneur dit à Gédéon, « Ceux qui boiront l'eau avec la langue comme les chiens, tu les mettras d'un côté. Ceux qui se mettront à genoux pour boire, tu les mettras de l'autre côté. » Il y a 300 hommes qui prennent de l'eau dans leurs mains pour la boire avec la langue comme les chiens. Tous les autres se mettent à genoux pour boire. Le Seigneur dit à Gédéon, « Avec les 300 hommes qui ont bu l'eau comme les chiens, je vous sauverai en vous livrant les Madianites. Que les autres retournent chez eux. » Gédéon prend avec lui les 300 hommes et il renvoie les autres Israélites chez eux, mais on garde les provisions et les trompettes de ceux qui s'en vont. Le camp des Madianites se trouve plus bas dans la plaine. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi, descends attaquer le camp des Madianites. Je vais le livrer en ton pouvoir. Mais, si tu as peur, descends d'abord avec pourra ton serviteur. Tu entendras ce qu'ils disent. Ensuite, tu auras le courage d'aller les attaquer. » Gédéon descend avec son serviteur tout près du camp, là où les premiers soldats se trouvent. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est sont dans la plaine aussi nombreux que des sauterelles. On ne peut pas compter leurs chameaux, ils sont aussi nombreux que les grains des sables au bord de la mer. Au moment où Gédéon arrive, un homme est en train de raconter un rêve à un camarade. « Tiens, je viens de faire un rêve. J'ai vu un pain d'orge qui roulait dans notre camp. Il est venu cogner une tente, il l'a renversée et elle est tombée. Oh, » son camarade répond. C'est l'épée de Gédéon, l'Israélite, le fils de Joash. Ça ne peut pas être autre chose. Dieu a décidé de livrer tout son camp, tout notre camp, en son pouvoir. Quand Gédéon entend le récit de ce rêve et son interprétation, il se met à genoux pour remercier Dieu. Puis il revient au camp des Israélites et crie, « Levez-vous, le Seigneur vous a livré le camp des Madianites. » Gédéon divise les 300 hommes qui sont avec lui en trois groupes. Il donne à chacun une trompette, un pot vide et une torche à mettre dans le pot. Il leur dit, « Vous regarderez de mon côté et vous ferez comme moi. Quand je serai arrivé près du camp, ce que je ferai, vous le ferez aussi. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez de la trompette. Vous aussi, tout autour du camp. Et vous crierez pour le Seigneur et pour Gédéon. » Un peu avant minuit, Gédéon et un groupe de 100 hommes arrivent près du camp. On vient de remplacer les gardiens du camp. Gédéon et les hommes sonnent de la trompette et ils cassent les peaux qu'ils ont dans leurs mains. Alors les deux autres groupes sonnent de la trompette et ils cassent leurs peaux. Tous tiennent des torches dans leur main gauche et ils tiennent des trompettes dans leur main droite pour en sonner. Puis ils se mettent à crier « Attaquons pour le Seigneur et pour Gédéon !» Ils se tiennent debout autour du camp, chacun à sa place. Dans le camp, tout le monde se met à courir en poussant des cris et en s'enfuyant. Les 300 hommes sonnent de la trompette. Pendant ce temps, le Seigneur fait en sorte que les Madianites se tuent entre eux dans le camp. Ceux qui restent fuient jusqu'à Bethshitta, dans la direction des Séréda, et jusqu'à la ville d'Abel-Méola, près de Tabeth. Gédéon, vaillant héros de l'Ancien Testament. Jeune homme, il essaie de sauver ce qu'il peut en battant le froment à l'abri de l'oppresseur Madianite. Il se laisse convaincre par l'ange de l'Éternel qu'il doit s'engager au service de Dieu pour un retour vers une vie plus paisible et plus juste. Ce n'est pas un illuminé qui se laisse influencer. Il a besoin de prendre du recul. C'est pourquoi il prépare un chevreau et des pains à partager, à offrir aux messagers de l'Éternel. La confirmation de l'origine divine de son appel, c'est le feu du ciel qui consume son offrande et amène le départ du messager de Dieu. C'est la première étape de l'engagement avec ce qu'on appelle une consécration. À partir de là, Gédéon s'engage pour que Dieu puisse rétablir une relation entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Et maintenant, place à l'action. Premièrement, renverser et détruire l'idole qui souille la propriété familiale. De nuit, avec une dizaine de complices, et avec le risque de se faire lyncher par la foule des gens de la ville. Joas, le père de Gédéon, le défend dans un sursaut de bon sens avec ses paroles. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Bien sûr, voilà 7 ans que les récoltes sont ravagées par la razzia des Madianites. Le dieu païen, Baal, de la fertilité et de la prospérité, ne sert à rien. L'acte de rébellion de Gédéon est le signe qu'il est temps de remettre les choses à leur place. Destruction des idoles et construction d'un autel pour l'Éternel Dieu qui donne éternelle paix. Après cette action symbolique, il est temps de rassembler les combattants pour tenir tête et repousser l'oppression des Madianites. Il rassemble les gens de son clan, des gens de sa tribu Manassé et des tribus voisines de Aser, Zébulon et Nephtali. 32 000 personnes prêtes à se former et à s'engager dans la bataille. Gédéon, consacré et revêtu de l'Esprit de Dieu, demande une confirmation de son ordre de mission à 2 reprises. Il demande un signe à Dieu alors que les troupes sont déjà rassemblées. Peut-être qu'il a un doute. Absolument pas. Les hommes sont aux côtés de Gédéon. Et le signe est destiné à confirmer aux hommes qui sont rassemblés autour de lui que c'est bien Dieu qui agit et non pas lui-même en tant que chef de guerre. Les hommes ont tous oublié que Dieu est puissant aux côtés d'Israël et qu'il a déjà permis dans le passé de grandes victoires. La toison qui s'imprègne de la rosée et ensuite la toison qui reste sèche sont des signes pour que les combattants futurs sachent définitivement que le Dieu vivant est tout-puissant et qu'il est à leur côté pour rétablir la justice et la paix. 32 000 hommes se rassemblent autour de Gédéon pour affronter les 135 000 Madianites qui, depuis 7 ans, empêchent les enfants d'Israël de prospérer. L'Éternel dit à Gédéon, « Si il combat de manière traditionnelle, le peuple pourrait tirer gloire pour lui-même et ne pas reconnaître l'intervention divine en sa faveur. » 70% des combattants retournent chez eux parce qu'ils ont peur et finalement seuls 300 combattants sont triés sur le volet en vue de livrer bataille. Espionnage, propagande, désinformation, renseignement, voilà les éléments de la préparation de la bataille contre Madian, Amalek et les fils de l'Orient qui étaient répandus comme des sauterelles dans la vallée. Un songe prémonitoire prépare la panique à venir dans le camp des oppresseurs. En pleine nuit, à l'aide de trompettes, de cruches et de flambeaux, et au nom de l'Éternel, la bataille est livrée, les Madianites s'entretuent dans la nuit et prennent la fuite. L'ennemi est terrassé, pourchassé, anéanti, et Gédéon rend gloire à l'Éternel. Chapitre 8, les versets 22 et 23. Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Mais Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Donc Gédéon rend gloire à l'Éternel, et le pays d'Israël fut au repos pendant 40 ans. Trois millénaires plus tard, nous voilà dans une société idolâtre qui a perdu la mémoire de ce que l'Éternel Dieu attend de l'humanité. Les dieux païens encombrent notre espace de vie. Consommation, matérialisme, réussite économique et sociale, individualisme, réalisation du moi, influence grandissante des médias et manipulation de l'opinion publique par les nouveaux fameux réseaux sociaux. Collectivement, nous voilà impliqués dans une course aux armements. 2% du PIB sera consacré aux dépenses militaires en France pour mener des guerres qui amènent la souffrance, l'oppression et la désolation là où les batailles se livrent. Socialement, nous voilà réticents à partager et accueillir ceux qui se trouvent déracinés, oppressés chez eux et migrants, sans aucune volonté collective de vivre en bonne harmonie les uns avec les autres. Alors Dieu envoie des prophètes, des messagers, pour susciter un engagement, pour rétablir sa justice et sa paix, comme du temps de Gédéon. Va avec la force que tu as. Et pour la grande bataille, ne t'encombre pas de techniques et de stratégies. Fais-moi confiance, et au moment opportun, l'ennemi sera paniqué et mis en désordre. Jésus nous a montré le chemin. Lui, le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous faire comprendre ce que le Père Céleste attend de ses créatures. Face à la tentation, par exemple, nous lisons en Matthieu chapitre 4, il répond « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La deuxième réponse « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu » pour rappeler le troisième commandement. Et la troisième réponse « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul » pour rappeler le premier commandement. Avec ces paroles, la bataille est livrée et Satan, le tentateur, se tient à l'écart. Comme les Madianites vaincus et qui font profil bas pendant 40 ans parce que Dieu a permis que sa puissance se révèle dans la faiblesse de Jésus. Pour conclure, nous ne sommes pas toujours à l'aise avec les récits de l'Ancien Testament. Mais toujours à nouveau, ce texte nous rappelle que Dieu a créé l'homme libre de choisir une vie où nous lui laissons la place qu'il souhaite dans notre cœur et dans notre esprit, ou une vie où nous n'en faisons qu'à notre tête pour notre propre intérêt. Comme pour le peuple d'Israël, à l'époque des juges, à un moment donné, Dieu peut nous livrer temporairement aux mains de ceux qui nous oppressent, nous appauvrissent et nous empêchent de vivre en paix. Mais un jour ou l'autre, survient un prédicateur qui appelle à une prise de conscience, une remise en question de notre façon de concevoir notre vie. Peut-être même que l'un ou l'autre sera appelé vaillant héros pour livrer une bataille pour la paix, la justice et l'amour, dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine concret de la vie de tous les jours. Une dernière remarque. Gédéon n'a pas été un héros solitaire, mais s'il était investi de la puissance de Dieu, il s'est entouré d'une équipe efficace et soudée où chacun a tenu sa place et son rôle au moment de la concrétisation, de la mise en œuvre, de la déroute de l'oppresseur. Que nous soyons Gédéon ou l'un de ses hommes à ses côtés, restons confiants et soyons prêts à faire venir le règne de Dieu sur terre par notre engagement au service de l'Église fidèle à l'enseignement de Jésus-Christ. Amen.